Oui, bonjour. Donc, c'est la deuxième séance de formation sur l'œuvre sur le capital de Marx. Donc, Catherine Mills. Alors, donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on est passé de ce qu'on a étudié la dernière fois, c'est-à-dire la production marchande capitaliste, de la production marchande simple, comment on est passé à la production marchande capitaliste. Donc le problème consiste à essayer d'expliquer le surplus d'argent A' plus grand que A qu'on va retirer à la fin d'un processus. Et donc la question, c'est de savoir comment l'argent qu'on a au départ est devenu capital. Comment l'argent capital, c'est-à-dire plus d'argent, avec donc la formule A', l'argent qu'on a à l'arrivée, plus grand que A, l'argent qu'on a au départ. Et on va voir qu'il y a des différences importantes, considérables, entre ce qu'on appelle la production marchande simple et ce qu'on appelle la production marchande capitaliste, c'est-à-dire le capitalisme. Et donc ça c'est important pour tout ce débat actuel sur l'argent, la financiarisation. Donc dans un premier temps, je vais présenter ce que Marx appelle, et d'ailleurs tout à l'heure on prendra les textes, donc ce que Marx appelle la formule générale du capital. Et dans un deuxième temps, je verrai le concept de force de travail, source de plus-value, que je développerai ensuite dans une troisième partie. Donc la formule générale du capital, qui permet donc la transformation de l'argent en capital. On part de la circulation des marchandises, qui est le point de départ du capital. Mais le capital ne peut apparaître que lorsque la production marchande est suffisamment développée. On dit à un certain degré de développement des forces productives. Et ça se produit, en gros, à partir du XVIe siècle. Alors, première définition, ce qu'on appelle la formule d'abord de la circulation des marchandises.
C'est dommage qu'on n'ait pas de tableau, ça va bien.
La circulation des marchandises, qui correspond donc à la production marchande simple, voilà comment ça se passe. Au départ, j'ai une marchandise, je la vends sur un marché, j'obtiens de l'argent et avec cet argent, je peux acheter d'autres marchandises. C'est ce qu'on appelle le cycle MAM, marchandise, argent, marchandise. Alors évidemment, pour qu'on soit incité à cette formule de la circulation des marchandises, il faut que les marchandises qu'on vend et qu'on achète soient de différentes qualités. Sinon, on n'a pas intérêt à faire cet échange. Donc, dans cette formule, on a des valeurs d'usage au départ et à l'arrivée qui sont différentes. Par contre, au niveau de l'échange, eh bien, nous obtenons, au niveau de la valeur d'échange, au niveau de la valeur tout court, comme on a dit la dernière fois, nous avons là, au contraire, un rapport d'équivalence qui s'établit. Hein, on a vu que ça s'échange, les marchandises s'échangent en fonction de la quantité de travail qu'elles contiennent. Donc ça, c'est la formule de la circulation des marchandises, MAM. Je vends pour acheter une autre marchandise. Mais ça, c'est pas le capital. La formule générale du capital, elle est la suivante. J'ai au départ de l'argent, donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'accumulation primitive, que Marx étudie ailleurs, et il y a un propriétaire du capital, et donc il y a l'argent au départ. Ensuite, cet argent, il n'est avancé que pour être récupéré, mais il ne veut pas, c'est pas intéressant si c'est pour récupérer la même chose. Donc, le propriétaire de cet argent, ce qui l'intéresse, donc on verra que ça devient, c'est le capitaliste, l'entrepreneur capitaliste, ce qui l'intéresse, c'est que A prime, qui est l'argent qu'il a à l'arrivée, soit forcément plus grand que A. Sinon, il n'a aucun intérêt à faire cette opération. Donc la formule générale du capital, c'est A, argent, qui se transforme en marchandise. On verra comment. Alors, en fait, c'est dans la production. C'est l'entrepreneur capitaliste, ça se transforme en marchandises, et des marchandises qui ensuite sont vendues sur le marché, et à la fin, on récupère une somme d'argent supplémentaire. A prime plus grand que A. C'est ça la base même de la formule générale du capital. L'argent, au départ, on a l'argent, à l'arrivée, on a l'argent. Mais en fait, surtout, c'est deux quantités différentes. Donc, on verra la formule, l'argent bourgeonnant, enfin, on verra tout à l'heure. Alors, dans ce cas-là, le but du producteur, c'est la valeur d'échange, mais en fait, c'est de réaliser ce qu'on appelle une plus-value, ce qu'on expliquera. Après, c'est de réaliser une valeur supérieure à celle qu'il a mise au départ. Et on dit, Marx, il y a plein d'expressions qui sont assez piquantes et qui c'est bien de les retenir. Enfin, donc il dit, pour montrer cet argent qui doit se mettre en valeur, il dit argent toujours bourgeonnant. Et donc c'est argent pour faire plus d'argent. Et le motif déterminant du capitaliste, c'est autre expression, mais ils sont tellement colorés que c'est vraiment très important de les retenir, c'est l'appropriation toujours croissante de la richesse. Donc ça, je cite dans le bouquin, mais ça vient de... Des passages du capital qu'on verra ensemble tout à l'heure. Et leur autre expression, il parle de mouvement incessant du gain, toujours renouvelé. Et il dit aussi tendance absolue à l'enrichissement, chasse passionnée à la valeur d'échange. Donc il y a toute une série de formulations et il oppose le capitaliste, il l'oppose au thésauriseur. Le thésauriseur, c'est un capitaliste maniaque, dit-il, qui met de l'argent de côté, qui l'enlève de la circulation. Alors que le capitaliste, lui, est un thésauriseur rationnel. Pourquoi rationnel? Il lance sans cesse l'argent dans la circulation. Et donc, Marx nous dit, le capital pousse, sort de la circulation, on verra comment il sort, on verra après comment il sort de la circulation, il revient, s'y maintient, s'y multiplie, en sort de nouveau accru et recommence sans cesse la même rotation. il emploie une autre formule à propos de cette différence A'-A. Il dit argent qui pond de l'argent, qui fait des petits. Et cela est vrai du capital industriel. Donc il étudie la différence entre le capital commercial et le capital industriel. Le capital industriel, sa spécificité, c'est que dans ce cas-là, l'argent se transforme en marchandise. Et par la vente de la marchandise, il se transforme en plus d'argent. Argent qui vaut plus d'argent, valeur qui est plus grande qu'elle-même. Et c'est très actuel hein, pour expliquer cette course à la rentabilité financière maximum. Alors il emploie ensuite une petite phrase qui est extrêmement importante, c'est que tout le reste va essayer d'expliquer. Il nous dit A, M, A prime est donc réellement la formule générale du capital telle qu'il se montre dans la circulation. Et alors là, j'ai fait exprès d'insister sur tel qu'il se montre dans la circulation, parce qu'en réalité,
et donc ça c'est important par rapport au débat hein, qu'on voit beaucoup aujourd'hui de ceux qui ne nous parlent que de la répartition des richesses, parce qu'il faut toujours articuler cette répartition des richesses à la production des richesses. Et donc, il nous dit, et il va nous expliquer ensuite tout ça, le supplément A'-A, on le constate, en fait, en gros, ça veut dire on le constate dans la circulation, mais en réalité, il ne se produit pas dans la circulation, il se produit dans la production, dans la sphère de la production. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est pas le marché. Le marché, bien sûr, est un lieu qu'il faut étudier, mais la création de ce surplus, de cette différence A'-A, elle a lieu non pas sur le marché, mais dans la sphère de la production. C'est ça une analyse marxiste. Vous pouvez m'interrompre à tout moment, hein, s'il y a des questions. À tout moment, hein, bien sûr. Alors ensuite, il étudie ce qu'il appelle les contradictions de la formule générale du capital. Alors, si nous avons deux producteurs échangés, deux producteurs qui doivent échanger sur le marché. Ces deux producteurs peuvent, dans l'échange, ils peuvent gagner tous les deux en ce qui concerne la valeur d'usage. Ça veut dire ils vont échanger, par exemple, des tissus contre du vin. Celui qui fabrique les tissus, il va vendre ses tissus et il va acheter du vin. Donc il estime qu'il a gagné, puisqu'il il vend la valeur d'usage qu'il a fabriquée, il achète une valeur d'usage qu'il n'a pas. Par contre, quand on va sur le marché pour acheter et pour vendre, eh bien, on a ce qu'on appelle un échange d'équivalent. On vend et on achète en fonction du temps de travail qui est contenu dans la fabrication des marchandises. Et donc on ne peut pas gagner simplement par l'échange.
sauf, on verra qu'il peut y avoir des infractions à la loi de l'échange. Il y a des gens qui peuvent brûler les autres, c'est vrai. Il y a on a vu des spéculations sur les matières premières. Il y a des infractions à la loi de l'échange, mais globalement, en moyenne, on ne peut pas, quand on échange des marchandises, on échange des équivalents, c'est en fonction du temps de travail. Donc sur la valeur d'échange elle-même, si l'échange a lieu normalement, on ne peut pas, c'est pas là qu'on va faire la plus-value en fait. Et là, il va critiquer les économistes qui sont un peu antérieurs à lui, notamment Condillac, qui est ce qu'on appelle un utilitariste, et qui s'intéresse surtout au marché. Il va les critiquer, et Condillac, bah, je ne vais pas développer, mais Condillac pense qu'on s'enrichit dans la circulation. En fait, celui qui sait vendre, en gros, c'est à peu près ça. Celui qui sait vendre, eh bien, il s'enrichit. Alors qu'en réalité, c'est ni la circulation, ni l'échange qui ne crée la valeur. Alors, c'est pourquoi il veut étudier le capital industriel. Et il va l'étudier dans ce qu'on appelle la sphère de la production des richesses. C'est la sphère de la production des richesses qui est importante, c'est là où se produit la plus-value que nous étudierons tout à l'heure. Alors il explique ça de la façon suivante. J'ai toujours une petite phrase caractéristique de son style. Notre possesseur d'argent n'est encore capitaliste qu'à l'état de chrysalide. Donc c'est le futur capitaliste qui arrive avec son argent. Il doit d'abord acheter des marchandises à leur juste valeur. C'est-à-dire, il va sur le marché, il achète, je sais pas quoi, de la toile, enfin, donc il va sur le marché pour acheter des marchandises à leur juste valeur, en fonction de ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire autant de travail qui est nécessaire à leur production. Ensuite, il retourne sur le marché pour vendre en fait d'autres marchandises, celles on verra comment ont été fabriquées, pour les vendre aussi à leur juste valeur. Donc on ne comprend pas. Et cependant, à la fin, retirer plus de valeur qu'il n'en avait avancé. Donc c'est une énigme. Hein, je vais sur le marché pour acheter des marchandises à leur valeur. Je retourne sur le marché pour vendre des marchandises à leur valeur. Et pourtant, à la fin, j'ai plus d'argent que je n'en ai avancé.
Donc il y a ce mystère, cette énigme qu'il faut expliquer. Et alors il nous dit... La métamorphose de l'homme aux écus en capitaliste doit se passer. Alors, on va voir sa contradiction, toujours les contradictions au sein d'un même phénomène. Ça doit se passer dans la sphère de la circulation et en même temps doit ne point s'y passer.
Et justement, c'est extrêmement difficile. Parce que donc, alors je vais essayer de commenter, doit se passer dans la sphère de la circulation. Ouais. La métamorphose de l'homme aux écus en capitaliste. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire dans la sphère de la circulation? Il a effectivement besoin de la sphère de la circulation, et je vais l'étudier. Qu'est-ce qu'il fait dans la sphère de la circulation? Dans un premier temps, il va au sphère de la circulation, c'est le marché en fait. Hein. Il va acheter... Voilà. Il va acheter des marchandises à leur valeur. Par exemple, s'il veut fabriquer des habits, il va aller acheter des tissus. Il les achète, et puis du fil, etc. Il les achète à leur valeur. Bon, toujours qu'on a vu la semaine dernière, le temps de travail contenu dans leur fabrication. Ensuite, il y a une chose qui se passe, mais qu'on n'a pas encore étudiée. Donc, ça fabrique des habits. et il retourne dans la sphère de la circulation pour vendre ses habits à leur valeur. Et donc, il y a un échange d'équivalent dans l'acte d'achat, il y a un échange d'équivalent dans l'acte de vente, et mystère, on retire plus d'argent qu'on en a avant. Donc, il faut donc étudier,
c'est pour ça que le doigt ne point s'y passer, il faut étudier autre chose que la sphère de la circulation, il faut étudier la sphère de la production.
Alors, à ce stade, est-ce que vous voulez qu'on fasse directement les textes là-dessus? Ou vous préférez qu'on continue? Qu'est-ce que... Voilà, on va prendre les textes là-dessus. Donc, c'est le... Comme ça, on va se le partager. On a le chapitre 4, la formule générale du capital, ça fait deux pages. Le chapitre 5, les contradictions de la formule générale du capital. Ça fait deux pages et demie. Et ça va jusqu'à chapitre 6, achat et vente de la force de travail. Donc, si vous voulez, si ça vous embête, vous me le dites. On pourrait proposer que, je sais pas, par exemple, prend la formule générale du capital, en relevant les points les passages les plus significatifs. Il ne faut pas tout étudier, il faut trouver ce qui est le plus important. Ensuite, si tu veux, si vous voulez, le chapitre 5, les contradictions de la formule générale du capital. Alors, ça fait un peu long, ça fait pas grave, de toute façon, on va sur deux pages et demie. Et puis après, vous ferez sur force de travail, si vous voulez, mais vous pouvez aussi préparer... vous pouvez rester 10 minutes à essayer de... Mais tout le monde peut le faire aussi. Et vous, je vous demanderai, je vous demanderai de prendre achat et vente de la force de travail, qui est donc le chapitre 6, page 12. Et on va diviser comme ça, parce qu'en fait, il y a achat-vente 1, 2... 3, 4, après taux de plus-value, 1, 2, donc si vous voulez, c'est un peu moins long, mais le taux de plus-value, chapitre 9, si vous voulez, degré d'exploitation de la force de travail, mais ça, bon, on ne l'a pas encore fait, mais on fera après, et donc, si tu veux bien, ça fait un peu beaucoup, mais... le chapitre 6, achat et vente de la force de travail, jusqu'à donc de la page 12 à la page page 15, c'est ça. Voilà, jusqu'à... Et donc déjà relever les phrases les plus importantes, mais en fait on le fera seulement quand on aura fait le cours, mais comme ça vous pouvez préparer pendant si vous voulez. Hein. Alors, la section 3, troisième partie de ce chapitre, permet d'étudier ce qu'on appelle le type capitaliste de progression de la productivité du travail et permet d'étudier les modalités d'augmentation du taux de plus-value. Alors, tout d'abord, Marx étudie le concept de révolution industrielle, et évidemment, pour aujourd'hui, ça serait intéressant de prolonger et de procéder à l'histoire des techniques jusqu'à la révolution qu'on appelle informationnelle. Donc Lamarck, il étudie pour son époque la révolution industrielle, c'est-à-dire le remplacement des mains du travailleur manuel qui mouvait les outils par une machine, ce qui va dans un premier temps entraîner un extraordinaire progrès de la productivité par une réduction considérable de la quantité de travail vivant par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Donc ça, je ne vais pas développer. Donc il étudiait notamment la machine à vapeur. Je ne vais pas développer. Alors il y a ce qu'on appelle un certain type de progression de la productivité du travail. La productivité du travail étant le rapport entre le produit au numérateur et au dénominateur le travail total dépensé. C'est-à-dire, en fait, c'est le produit pour une heure de travail. Et évidemment, avec les progrès de la productivité du travail, on va réussir à fabriquer plus de produits en moins de temps. Mais on verra plus tard que cette façon de faire progresser la productivité du travail va engendrer une augmentation de ce qu'on appelle le capital constant, c'est-à-dire les machines, et au contraire des économies considérables de ce qu'on appelle le travail vivant. Donc ça va amener d'ailleurs des contradictions, mais qu'on étudiera la prochaine fois. Donc ça se fait en accumulant du capital constant et en réalisant des économies considérables sur le travail vivant. Et on va voir comment, plus tard, comment c'est porteur de contradictions. Alors maintenant, nous voyons les modalités d'accroissement du taux de la plus-value. Alors pour comprendre ça, il faut revenir à ce qu'on a étudié tout à l'heure, bien voir la contradiction de la marchandise force de travail, qui a d'une part une valeur. Nous avons vu que c'était le temps de travail socialement nécessaire à sa production. Ça, nous l'avons vu. Et en même temps, jamais oublier l'autre terme de la contradiction, c'est aussi une valeur d'usage. Et on a dit l'utilité pour celui qui l'achète, c'est-à-dire le capitaliste. Et son utilité, quelle est sa vertu suprême, sa vertu, sa capacité à travailler et surtout à créer plus de valeur que sa propre valeur. Et s'il n'y a pas de force de travail, il n'y a pas de production de richesse, il n'y a pas de production de plus-value. Donc la force de travail, elle est capable de faire varier la valeur et même de redonner vie à ce qu'on appelle le travail mort, c'est-à-dire le travail cristallisé dans les machines. Et sans force de travail, il n'y a pas de production de plus-value. Faut jamais oublier ça. Vous mettez des machines toutes seules, bon certes il y a l'automation, mais de toute façon, vu les quantités de travail nécessaires auparavant pour les fabriquer, il y a toujours du temps de travail qui est cristallisé. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans la discussion, la valeur de la force de travail n'est pas figée. Et il y a une double tendance. La première tendance, c'est que, avec les progrès de la productivité, avec le type, avec la façon particulière de faire progresser la productivité dans le capitalisme, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va diminuer, on va mettre moins de temps pour fabriquer les marchandises et à partir de là, ça tend à abaisser la valeur de la force de travail. Hein, si on met beaucoup moins de temps à fabriquer les marchandises, la valeur de la force de travail, elle baisse. Et donc, c'est utilisé évidemment pour essayer d'économiser sur les salaires. Pour licencier. Inversement, il y a une autre tendance à l'augmentation de la valeur de la force de travail. Eh bien, on l'a vu avec ce qu'on appelle le développement des forces productives, les machines qui sont plus complexes et donc besoin de faire appel à une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée. Et on doit donc, on voit que ça évolue, on va reconnaître le besoin de repos, le besoin de logement, le besoin de formation, et en liaison avec les luttes sociales, mais aussi pour répondre aux contradictions du mode de production capitaliste, et pour sortir des crises par exemple, il y a besoin, à partir des luttes sociales, à partir des exigences de développement des forces productives, il y a une autre tendance à augmenter la valeur de la force de travail. Il y a donc ce double mouvement. Alors le salaire, qu'est-ce que c'est que le salaire? Donc là, il y a un débat. Les économistes dont Marx va partir, qui sont les économistes classiques, comme par exemple Ricardo, qu'on verra quand on va étudier les classiques, et Ricardo pose que le prix naturel du travail est égal à la quantité de travail totale, donc, et que c'est égal au salaire plus le profit. Mais là, on se trouve, comme le voit Marx, face à une contradiction, parce que de deux choses l'une, soit le prix naturel pour fabriquer le... Non, c'est pas comme ça. Soit le salaire est égal, comme le disent tous les économistes bourgeois, que le salaire, ils disent que le salaire est égal au prix du travail. Alors on dit, et y compris dans le contrat de travail, il y a marqué que le travail est rémunéré en fonction, par le salaire. C'est-à-dire, il y a donc cette idée que salaire égale prix du travail. Mais en réalité, si on reprend l'équation de Ricardo, si le salaire est égal au prix de l'ensemble du travail, à ce moment-là, il n'y a pas de profit. On a prix naturel de la marchandise, c'est-à-dire quantité de travail égale salaire, et à ce moment-là, on n'a pas de profit. Et donc, c'est incompatible avec une société capitaliste. Soit le profit existe, c'est le moteur, le profit est le moteur de la société capitaliste. Soit le profit existe, mais à ce moment-là, le salaire ne peut plus être égal à l'ensemble du prix du travail. Et c'est bien pour ça que Marx démontre que le salaire n'est pas le prix du travail, mais le prix de la force de travail. Et donc, ça rejoint, c'est pourquoi on peut avoir à la fois une force de travail payée à sa valeur, et qu'en même temps, elle produit plus de valeur que sa propre valeur. Et donc, ça fait la démonstration que tout le produit du travail n'est pas payé. Et je dirais même que c'est même pas la peine de s'indigner, parce que de toute façon, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de capitalisme. Le capitaliste, il n'engage pas son argent si c'est pour que ça lui rapporte rien du tout. Donc, c'est la logique même de l'accumulation du capital.
Pourquoi tu dis l'accumulation ?
De l'accumulation, parce que le capital, il accumule pour faire...
Oui, le A'.
Voilà, le A', le grand CA, voilà, Bourgeonnant, j'adore Bourgeonnant. Alors, le salaire, donc, est, comme on dit, l'expression monétaire de la valeur de la force de travail. Alors voyons maintenant le marché de la force de travail. Bon là je ne veux pas développer. Ce qui est régi par les rapports de force très inégalitaires évidemment entre travailleurs et capitalistes. Bon, je ne vais pas développer, donc il y a un double mouvement d'absorption de la force de travail, mais aussi de rejet de la force de travail. Bon, je ne peux pas me permettre de développer, je n'ai pas le temps.
On pourrait lire avec le texte.
Vous regardez le texte, c'est dans le texte, oui. Donc là, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur les méthodes dont dispose l'entrepreneur capitaliste pour augmenter le taux de plus-value. Donc c'est la dernière page, la 82-83. Donc pour bien comprendre la définition de la plus-value, on doit revenir au double caractère de la force de travail et à sa contradiction entre sa valeur et sa valeur d'usage. C'est bien ça qu'il faut retenir. Le capitaliste achète par le contrat de travail la force de travail à sa valeur, mais en même temps il acquiert l'usage de la force de travail et donc il la fait travailler toute une journée de travail. Donc on a vu sur le schéma, le temps de travail total est supérieur au temps de travail socialement nécessaire. Et que ça nous donne, et le surtravail, et si c'est exprimé en valeur, ça s'appelle la plus-value. Alors le taux de plus-value, on a dit que c'était le rapport, on l'a vu sur le graphique, le rapport entre ce qui revient au capitaliste, PL, plus-value, et ce qui revient au salarié, V, qui veut dire capital variable. Capital variable, parce que c'est la force de travail qui fait varier la valeur, c'est ça que ça veut dire, capital variable ou capital ou force qui est capable de faire varier la valeur, capable de créer plus de valeur que sa propre valeur. Donc c'est le rapport, là on trouve ici le rapport entre le profit et les salaires. Parce que la plus-value, quand elle va s'exprimer sur le marché, elle s'appelle du profit.
C'est CB sur AC.
Alors ça, c'est... oui, c'est ça, c'est BC, c'est ça, c'est BC sur AC, voilà, sur le graphique. C'est exactement ça.
Alors, les méthodes dont dispose le capitaliste pour essayer d'augmenter le taux de plus-value, il y a une première méthode qui s'appelle la plus-value absolue. Alors là, on va revenir au graphique. Page 77, on revient au graphique. Donc, il y avait une journée de travail qui était de AB. Le capitaliste va essayer de prolonger la journée de travail jusqu'à B'. Alors ça, on voit que maintenant, c'est ça la plus-value absolue. Il augmente la journée de travail, s'il le peut, parce que ça dépend aussi des lois sociales, mais quand elles ne sont pas très développées. Et il y a une autre méthode aussi, c'est d'essayer d'augmenter la quantité de travail exploitable. Alors pour ça, il va recourir à l'exode rural, il va recourir au travail des enfants, après c'est l'immigration. Après il y a une autre méthode, ça va être le travail en équipe, ça va être les 3-8, maintenant il y a d'autres méthodes, au lieu d'avoir une seule quantité de force de travail qu'on utilise, eh bien si on multiplie, les machines vont être utilisées toute la journée et donc on aura 3 équipes qui vont travailler 8 heures, comme ça les machines elles sont jamais au repos. Alors ça c'est ce qu'on appelle la plus-value absolue. Il peut aussi essayer d'augmenter l'intensité du travail avec les cadences, travail à la chaîne, suppression des déplacements, suppression des temps morts, mais le problème c'est qu'on va avoir un travail plus intense, plus fatigant, c'est le stress, c'est plus fatigant, et alors il y a des inconvénients parce que par certains côtés, augmentant la fatigue physique et nerveuse, ça peut aussi entraîner des arrêts de travail, ça peut entraîner, comme on le voit aujourd'hui avec les suicides, et donc finalement ça peut entraîner une exigence d'augmentation de la valeur de la force de travail. Parce que si le travail est plus intense, il y a plus de quantité de travail dans une même unité de temps, il y a des effets un peu pervers, ça se retourne finalement, donc il y a énormément de coûts, de coûts sociaux, et ça se retourne, qu'il faut reconnaître, qu'il faut compenser, et donc en fin de compte, c'est pas forcément une bonne méthode, trop de fatigue. Alors il y a une autre méthode qui consiste à essayer d'augmenter la productivité du travail et ça s'appelle la plus-value relative.
La plus-value relative, ça consiste à, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, grâce aux progrès techniques, à abaisser le temps de travail socialement nécessaire pour fabriquer les subsistances nécessaires à l'entretien des ouvriers. C'est vrai, par exemple, on peut, tout ce qui est blé, tout ce qui est produits alimentaires, tout ce qui est tout ce qui est bien logement, etc. Enfin, tout ça, on va essayer de limiter le plus possible le temps de travail nécessaire à leur fabrication. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, au lieu d'avoir assez comme temps nécessaire à la production de ces marchandises-là, on va les réduire jusqu'à assez prime. Sur le graphique, là, on voit. Donc, on abaisse le temps de travail nécessaire pour produire les subsistances. Et du coup, sans prolonger la journée de travail, on va avoir une grandeur de plus-value plus élevée, C'B, qui est plus élevée que CB. Et donc ça, cette façon d'augmenter la plus-value relative, et donc l'écart entre le temps de travail total et le temps de travail socialement nécessaire, là aussi c'est grâce à la productivité. C'est grâce aux machines encore, hein, et on va voir que ça a des effets, plus tard que ça a des effets pervers en même temps. Là donc on abaisse le temps de travail qui est nécessaire pour fabriquer les marchandises. Et alors il y a une autre méthode qui est liée à la loi de la concurrence capitaliste, c'est ce qu'on appelle la plus-value extra. Et alors, c'est le fait pour un capitaliste à essayer d'être toujours le premier à adopter une machine nouvelle. Alors, il est le premier, donc il réussit à faire des économies de temps de travail. Et donc, il fait baisser la valeur des marchandises. Et donc, ça lui permet momentanément de baisser son prix de vente et donc de conquérir de nouveaux marchés. Mais les autres capitalistes vont essayer d'imiter, c'est-à-dire vont essayer d'adopter la découverte nouvelle, vont essayer d'adopter la machine nouvelle, et donc ça va être une course au progrès technique, et qui va se traduire par toujours plus de capital constant. Et donc, et on verra que là aussi ça a des contradictions qu'on étudiera dans 15 jours, que ça va engendrer une tendance à la baisse de taux de profit et qu'il va y avoir trop de capital constant accumulé et qu'au contraire, on va faire trop d'économies sur les salaires. Voilà, donc on va terminer avec le dernier texte, si tu veux bien. Voilà, si tu veux bien...
Moi, je peux pas lire.
Ah, d'accord. On ne voit rien, hein, c'est ça. Bon, ben, ça fait rien. Ouais. Donc, c'est le taux de ce qu'on appelle le taux de la plus-value. Et donc, ce qu'on vient d'étudier, là, c'est le degré d'exploitation de la force de travail. Ouais. Et...
Je peux pas lire.
Ce que je vais faire, c'est... Non, on ne voit rien, oui, c'est ça. Donc, c'est le... Donc en fait, on distingue dans la journée de travail, il y a la partie de la journée de travail qui va permettre de produire les subsistances nécessaires pour l'entretien de l'ouvrier et de sa famille d'ailleurs, et ce qu'on appelle temps de travail nécessaire, et l'autre période qui dépasse les bornes du travail nécessaire, pendant lequel l'ouvrier travaille, pendant lequel il y a une dépense de force, mais elle ne forme aucune valeur pour lui-même. Elle forme une plus-value pour le capitaliste. Et donc, on l'appelle sur-travail ou temps de travail extra. Et donc, en fait, on va rapporter le taux de plus-value, dit encore degré d'exploitation de la force de travail,
par le capital, c'est bien le rapport entre la masse de la plus-value au numérateur et au dénominateur, le capital variable, c'est-à-dire la valeur de la force de travail, c'est-à-dire en fait les salaires. Et donc on voit bien sur le graphique, on revient à ce petit graphique là que j'avais mis dans le... Ça tu l'as pas eu non plus. Et donc ça, seul problème, c'est que comment je pourrais faire, parce que je me demandais, ce qu'on va faire, c'est que Marine, elle le fasse reproduire. Celui-là, elle va se trouver sur Internet, le texte, ça n'y a pas de problème. Il y est déjà, mais celui-là, elle l'a fait que elle ne l'a que photocopié. Et donc j'espère qu'avec ça, si ça passe bien, après on pourra le faire taper. Parce que c'est quand même plus simple que dans le. Que dans le bouquin. Est-ce qu'il y a des questions là? Soit si vous en avez pour la prochaine fois, hein, n'hésitez pas. Donc on ne se voit pas, dites-le bien autour de vous, on ne se voit pas jeudi prochain, on se voit dans 15 jours, et là on fera le chapitre.
Le 12 là, c'est le 12.
Là. Voilà, le 12. On fera le. Baisse tendancielle de taux de profit, suraccumulation de capital, crise, on va faire ça, hein.